Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, c'est l'affaire Grégory qui fait la une. Plus de 30 ans après les faits, sera-t-on bientôt qui a tué le petit garçon à L'Épanche-sur-Vologne ? 5 personnes.
En une de vos journaux, eh bien, le visage du petit Grégory tel qu'on sait 4 ans. Et vos journaux se posent tous la même question. Le Figaro, va-t-on enfin connaître la vérité ? Libération, et si on avait retrouvé le corbeau ? Cette même photo du petit Grégory est en une du Parisien, aujourd'hui en France. L'ultime coup de théâtre, titre le journal, l'ultime, on aimerait le croire.
C'était donc il y a 30 ans, jour pour jour, 16 octobre 1984, et tous ceux qui ont l'âge s'en souviennent. En fait, Grégory Villemain, 4 ans, était retrouvé mort dans la Vologne. C'est le point de départ d'un fiasco judiciaire, mais aussi d'un fiasco médiatique.
Oui, avec un meurtre d'enfant, un corbeau qui écrit vengeance, des rivalités de famille. Dès le début, en fait, hein, dès les tout premiers jours, le fait divers va passionner les médias.
Les dernières informations, Hélène Fille.
L'énigme n'est pas résolue, mais la justice progresse sur le chemin de la vérité. 32 ans après la mort de Grégory Villemain, 4 ans retrouvés morts, pieds et poings liés dans la Vologne. On retrouve notre envoyé spécial en direct de Dijon.
Et oui, cela fait 3 décennies que les journalistes français vouent une passion pour ce fait divers qui aura 33 ans donc en octobre. Une passion qui les a conduits à dépasser certaines limites, comme l'a raconté Laurence Lacour dans son livre « Le bûcher des innocents ». Et pourtant, depuis mercredi, depuis que l'Est républicain a révélé que 3 membres de la famille de Grégory Villemain, assassinés en 1984, étaient en garde à vue, tous les journaux, que ce soit radio, télé ou presse écrite, ont repris cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'emballement reprendrait ? Est-ce que les journalistes auraient perdu la mémoire ? Ou est-ce qu'ils ont malgré tout tiré les leçons d'une des mystérieuses, les plus mystérieuses d'ailleurs, affaires criminelles de l'histoire, mais aussi, comme on l'entendait là, un grand fiasco journalistique. Nous sommes avec Patricia Touranchot, bonjour.
Bonjour.
Vous vous présentez vous-même comme fait diversière, c'est assez joli ça, fait diversière et rubricard de police à Libération pendant 29 ans. Vous êtes aujourd'hui journaliste au Jour et à l'Obs. Vous avez suivi cette affaire Grégory pour Libération dans les années 90 quand vous étiez responsable des pages police, banditisme et faits divers. Et puis avec nous se trouve également Éric Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, journaliste au service information générale du Parisien aujourd'hui en France et vous avez signé notamment le papier d'ouverture et la double page du Parisien jeudi sur l'affaire Grégory. Une première question à tous les deux, ça a été manifestement une surprise en tout cas pour nous lecteurs. Est-ce que vous aussi vous avez été surpris par le rebondissement, Éric Pelletier ?
Oui, très clairement, on savait que le dossier était ouvert, que les gendarmes travaillaient, mais on ignorait l'accélération de l'enquête, la reprise pièce par pièce de ces 12 000 pièces du dossier, et surtout la conclusion qu'allaient en tirer les gendarmes. Et c'est vrai que la préparation de ces gardes à vue est restée totalement secrète.
Patricia Touranchot.
Moi, j'étais étonnée par la nature du rebondissement. C'est-à-dire, je pensais qu'un jour, on pourrait peut-être connaître quelque chose dans cette histoire, à travers les expertises vocales des enregistrements des corbeaux ou à travers bon l'ADN, on savait déjà que c'était un peu fichu, mais je pensais plus à la police scientifique. Hein. Et en fait, le rebondissement, il arrive à travers les lettres hein, et les expertises en écriture de ces lettres anonymes des corbeaux de l'époque.
Et c'est pour ça d'ailleurs, Patricia Touranchot, que vous avez commencé une obsession, c'est comme ça que ça s'appelle au Jour, hein, un dossier oui. Au long cours de plusieurs papiers, une obsession consacrée à Grégory, dont le premier article a été mis en ligne hier. C'est vraiment une obsession journalistique, l'affaire Grégory, une passion, une hystérie, comment vous le qualifieriez ?
Oui, c'est une obsession, c'est un fait divers marquant, enfin des qui a duré quand même sur un demi-siècle. Et je pense que c'est parce que dans ce fait divers, il y a tous les ingrédients pour que ça marche. C'est-à-dire, on a un corbeau, on a des corbeaux qui se déchaînent au sein d'une même famille. On a les Vosges, on a un petit village. On a un enfant qui est assassiné, on a les histoires d'argent, parce qu'en fait, le mobile du criminel, depuis le début, on le sait bien, c'est une jalousie extrême et une haine incommensurable à l'égard de Jean-Marie Villemain, le père de l'enfant, qui est devenu contremaître, qui à 26 ans étale un peu ses richesses dans la vallée de la Vologne. hein, jolie maison, jolie voiture, enfant magnifique, il a grandi sa maison, il est tout ça, je pense, a fait que, en plus, ah oui, la mère ensuite a été accusée, donc tout ça fait que ce fait divers va rester. Et moi, pour les jours, je le feuilletonne. Enfin, c'est l'idéal pour un feuilleton policier.
Éric Pelletier, vous avez grandi avec cette affaire. Vous n'êtes pas un spécialiste de l'affaire Grégory. Avec quel recul regardez-vous les choses aujourd'hui?
J'essaie de... Alors d'abord, je suis les rebondissements judiciaires, mais j'essaie, comme Patricia Touranchot, d'avoir du recul par rapport à ce fait divers et qui, c'est vrai, a une certaine universalité pour trois raisons, en fait. D'abord, le personnage, en l'occurrence la victime, l'enfant de 4 ans, hein, qui devient une figure marquante, récurrente, qui nous regarde droit dans les yeux à chaque rebondissement de cette affaire.
Et il y en a toujours la même photo qui revient.
Ouais, absolument, qui absolument. Ce petit garçon souriant, enlevé dans des conditions qu'on connaît, hein, devant chez lui, et tout se joue en l'espace de quelques minutes. Le deuxième aspect, c'est que pour rendre ce fait divers universel, il faut un décor. Et ce décor-là, il existe. Ce sont les Vosges, et pas n'importe où. C'est une région reculée, traversée par une petite rivière. Et le troisième élément, c'est bien sûr l'énigme. Le mystère qui perdure avec des secrets, et la clé, on sait qu'elle est locale, et ces secrets pour autant perdurent depuis plus de 32 ans.
Alors il y a un intérêt certain qui s'explique, hein, dites-vous tous les deux, pour cette affaire particulière. En même temps, est-ce que cela explique l'hystérie médiatique qui a eu lieu il y a 30 ans, qui peut être dure, peut-être un peu moins, mais on cite toujours le nombre de 3000 articles, de 15 livres et puis d'une cinquantaine d'études universitaires consacrées à cette affaire. Je le citais en introduction, Laurence Lacour, qui était journaliste pour Europe 1 à l'époque, qui a suivi l'affaire pendant 4-5 ans, en a fait un livre il y a une vingtaine d'années qui a été réédité aux éditions Les Arènes, Le Bûcher des Innocents, dans lequel elle revient notamment sur les dérives médiatiques sur lesquelles il serait intéressant de revenir avec vous, Patricia Touranchot, par exemple sur le fait que, de façon peut-être très singulière dans cette histoire, certains journalistes se sont personnellement impliqués, ont pris position, certains sur la culpabilité de la mère, d'autres sur la culpabilité du cousin, Bernard Laroche, qui a été tué par le père de Grégory. Certains ont confondu leur rôle avec celui des gendarmes et des juges ou des enquêteurs. Comment expliquer ça, ce qui s'est passé? Patricia Touranchot.
Ouais, c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'on a visiblement, ils ont vécu dans cette affaire une hystérie collective. Un journaliste qui était très influent localement, qui s'appelait Bézina, Jean-Michel Bézina, était en fait à la fois le correspondant local d'RTL, le correspondant du Figaro, du Point, de deux agences de presse en tout. En fait, il collaborait à 9 médias nationaux. Bon, ce n'est pas le seul qui est dérapé, mais en tout cas, lui, dès le départ, les gendarmes d'Épinal m'ont raconté que Jean-Michel Bézina n'avait pas ses entrées chez eux. Il en a été très furieux. Hein, et dès le lendemain de la mort de Grégory, il attend dans le bureau du capitaine Étienne Sesma à la brigade de gendarmerie d'Épinal. Et Sesma ne veut pas le recevoir, ne veut pas lui parler, pas plus qu'aux autres journalistes. Il me raconte que Bézina s'énerve et lui dit « de toute façon, c'est la mère ». Donc dès le départ, ce journaliste est persuadé que c'est la mère. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le petit juge Lambert, comme il s'est appelé lui-même, ne tient pas la route. Et le petit juge Lambert va commettre des tas d'erreurs de procédure. Donc lui, au départ, il est sur Bernard Laroche, avec les gendarmes. Il pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour l'inculper et pour le placer en détention. Mais par exemple, quand la petite belle-sœur, Muriel Boll, la petite belle-sœur de Bernard Laroche, l'a dénoncé parce que elle avait raconté aux gendarmes que que Bernard Laroche était venu la chercher à la sortie du collège, qu'ils étaient allés dans un village, ils s'étaient arrêtés devant une maison, il y a un petit garçon qui était revenu avec Bernard Laroche, donc c'était Grégory, que Bernard Laroche était reparti en voiture, qui s'était arrêté dans un autre village, peut-être pour poster la lettre de revendication du corbeau à l'épanche sur Vologne, et ensuite qu'ils étaient allés vers une rivière et qu'il était revenu sans le petit garçon. Bon, tout ça, Le juge Lambert, finalement, avertit quand même des déclarations majeures de cette jeune fille, annonce aux gendarmes qu'il ne peut pas venir à la brigade de gendarmerie parce qu'il part en week-end de la Toussaint. On est le 2 novembre.
Je suis obligée de vous arrêter parce que là, si on vous écoutait, on lirait. Je pense qu'on aurait déjà une bonne quinzaine d'années qui se passent de façon journalistique. Je voudrais vraiment que vous essayiez de prendre un peu de recul et de champ par rapport à ce qui s'est passé dans les années 80 et 90, puisque vous citez le nom de ce journaliste, Jean-Michel Bézina, mais il n'était pas le seul sur place. Certains, d'ailleurs, y ont laissé des plumes. Laurence Lacour n'a pas écrit son livre pour rien. Denis Robert, qui était tout jeune journaliste, a dit à quel point ça avait été pour lui formateur et déformateur. On a parlé de micros cachés dans des armoires, de photos volées de famille. Éric Pelletier, quel regard portez-vous sur cette hystérie-là?
Il est intéressant de voir que ce fait divers, il est étudié dans les écoles de journalisme et plutôt comme un contre-exemple ou l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en réalité, les journalistes dans ce dossier sont souvent sortis de leur rôle d'observateurs, sont devenus des acteurs. Ils ont vécu d'ailleurs avec les acteurs. C'est-à-dire qu'ils passaient des semaines...
C'est ce que raconte Patricia Touranchaud précisément,
voilà,
c'est ça.
Voilà, dans le village, avec les uns, avec les autres. Et effectivement, on a eu... clairement, deux camps, les pros Villemain et puis les pros Laroche.
Et l'ancien capitaine de gendarmerie dont parlait Patricia Touranchaud à l'instant, Étienne Sesma, qui a écrit un livre, lui, en 2006, était persuadé de l'implication de Bernard Laroche. Alors comment on fait aujourd'hui, quand ressort à nouveau cette affaire, avec les rebondissements qu'on a vus cette semaine, comment fait-on? Est-ce qu'on fait attention quand on écrit un article, comme vous l'avez fait, Éric Pelletier? Vous n'êtes pas seul, hein, vous étiez plusieurs à écrire les papiers, et depuis jeudi, hein, jeudi, vendredi, samedi, encore aujourd'hui, il y a des articles assez longs dans le Parisien aujourd'hui en France.
Oui, on essaie de pas céder à l'emballement. En même temps, très honnêtement, c'est difficile parce qu'il y a une impatience, l'impatience médiatique face à la justice qui, elle, progresse à son rythme. Et on voit bien cette pression, 32 ans de mystère, 48 heures de garde à vue. Et évidemment, au terme de ces 48 heures de garde à vue, on espère avoir la clé du mystère. Pour être honnête, on l'a pas encore.
Patricia Touranchaud, est-ce qu'on peut faire un article sur l'affaire Grégory aujourd'hui, ou plusieurs, comme vous le faites pour Les Jours en ce moment, de la même manière? Sans donner aussi toute la profondeur historique, ou voire sans parler, comme David Garzon dans l'édito de Libé hier, de l'affaire Grégory comme d'une histoire du journalisme aussi?
Moi j'essaye franchement, en tant que fait diversière, comme Éric Pelletier, je pense, de reprendre les éléments matériels, voilà, de reprendre les heures, de reprendre l'heure à laquelle la lettre a été postée, de reprendre à partir d'éléments solides. Et puis de lui donner de la profondeur en reparlant de l'époque des corbeaux. Bon, pour l'instant, moi, j'ai fait deux épisodes. Le premier, c'est évidemment les corbeaux. Le deuxième, c'est sur tout ce qui s'est passé avec Bernard Laroche, les éléments du jour de l'assassinat et ce lien possible entre le couple Jacob qui vient d'être mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de la mort de Grégory, avec Bernard Laroche, parce que c'est la même histoire qui redémarre 32 ans après avec les mêmes bases. Hein, les éléments de départ, ils sont toujours les mêmes, avec des absences parce que des choses n'ont pas été réalisées à l'époque, sur l'autopsie par exemple.
D'où cette difficulté, Éric Pelletier, aujourd'hui précisément, d'avoir la distance nécessaire. Certains le font, hein, dans Libération par exemple, Éric Favreau, qui était à l'époque, dans les années 80 d'ailleurs, avec Denis Robert sur place, écrit, revient sur ce qui s'est passé à l'époque, mais alors avec plus ou moins de recul, selon certains. Vous disiez que cette affaire était enseignée parfois dans les écoles de journalisme comme un contre-exemple ou un exemple à ne pas suivre. Est-ce que vous pensez que elle a malgré tout, cette affaire, contribué à mettre en place des nouvelles règles journalistiques, une distance peut-être plus grande entre la presse et l'appareil judiciaire? Quand on pense à Outreau, on peut en douter, mais enfin quand même.
Oui, c'est ça. J'aimerais dire oui. Et l'honnêteté me doit de dire plutôt non. En fait, c'est du cas par cas. On essaie évidemment d'avoir d'abord des regards croisés. Pas un seul journaliste qui travaille sur ce type de dossier. Des reporters sur le terrain, des gens qui sont plutôt en contact avec les enquêteurs. Bien évidemment, prendre en compte le contradictoire. Hein. On l'a vu hier, on a eu une tonalité qui était sur les premiers temps de la garde à vue. Nous sommes proches de parvenir à la vérité. Et puis aujourd'hui, avec les déclarations des avocats, on se rend compte qu'on n'en est pas si proche finalement.
Quel conseil vous donneriez aux journalistes qui voudraient se pencher sur cette affaire aujourd'hui, de lire le bûcher des innocents. Par exemple?
Non, mais d'abord, j'ai pas de conseil à donner. Chacun fait avec son métier comme il l'entend et comme il le peut, mais simplement peut-être effectivement de ne pas épouser une thèse et de rester dans son rôle d'observateur plus que dans son rôle d'acteur.
Éric Pelletier et Patricia Tourancheau, merci beaucoup d'être venus parler de cette affaire médiatique. Aussi, on se retrouve après le journal des 8 heures.